Sophie, bienvenue pour un nouveau journal, 3h à Paris, 5h à Djibouti.
Mathis Limano.
Après 2 jours à Mayotte, où il a pu constater l'ampleur des dégâts du cyclone Chido, Emmanuel Macron a atterri à Djibouti ce vendredi soir. Il a participé au traditionnel Noël avec les troupes françaises. Vous l'entendrez, le président veut insuffler une nouvelle dynamique pour la plus importante base militaire française sur le continent. L'horreur et l'effroi à Magdebourg après l'attaque d'une voiture bélier. C'est dans le nord de l'Allemagne. Elle a foncé sur un marché de Noël. Bilan provisoire, 2 morts et près de 70 blessés. Et puis, reportage à suivre au lendemain du prononcé des peines dans l'affaire des viols de Mazan, une manifestation s'est tenue devant le tribunal RFI été. À Mayotte, 35 morts et plus de 2400 blessés selon le dernier bilan du ministère de l'Intérieur. Un chiffre qui pourrait s'alourdir après le passage du cyclone Chido la semaine dernière. Pendant 2 jours, Emmanuel Macron a pu constater les dégâts et faire des promesses, notamment le raccordement à l'eau de tous les foyers d'ici samedi. Le président est désormais à Djibouti. Il a atterri dans la soirée pour le traditionnel Noël avec les troupes françaises. 1500 soldats présents dans la plus importante base militaire en Afrique. Avant le repas, le chef de l'État a tenu un discours dans lequel il a annoncé que cette base de Djibouti allait se réinventer comme point de projection pour des missions en Afrique. Pierre Firsion est l'envoyé spécial de RFI sur place.
Vous avez toujours été une emprise particulière, a lancé Emmanuel Macron aux 1500 soldats français présents sur la base aérienne 188. Djibouti est effectivement une base à part, beaucoup plus tournée vers la mer Rouge, l'océan Indien et l'Indo-Pacifique qu'elle ne l'est vers l'Afrique. Mais ce choix stratégique est en cours d'évolution, a annoncé vendredi le président français.
C'est aussi, et ce sera d'ailleurs à réinventer, un point de projection pour certaines de nos missions africaines. Et donc je veux ici marquer la différence entre ce que chaque jour vous bâtissez depuis cette base et ce qui est fait la restructuration de notre approche sur le continent africain.
Une restructuration forcée car la France est contrainte de quitter le Tchad et le Sénégal après avoir dû évacuer le Sahel.
Notre rôle change en Afrique, mais c'est ce que nous avons voulu. Parce que le monde change en Afrique, parce que les opinions publiques changent, parce que les gouvernements changent et parce que nous avons décidé de manière souveraine en février 2023, après plusieurs années de changements progressifs, eh bien de rebâtir un partenariat qui repose sur des partenaires respectés.
Fini donc.
La logique qui était la nôtre dans trop de pays, de bases installées pléthoriques permanentes, qui ne conduisait plus à une relation partenariale mature parce qu'elle ne reposait plus sur l'expression d'un besoin clair, identifié.
Au Gabon et en Côte d'Ivoire, où subsistent encore des bases françaises, les effectifs sont en diminution. Et ces bases pourraient être à l'avenir partagées avec les armées locales. Pierre Firsion, Djibouti, RFI.
RFI, les 3 heures passées de 3 minutes à Berlin, l'Allemagne, meurtrie après l'attaque à la voiture bélier sur le marché de Noël de Magdebourg. C'était en début de soirée, bilan provisoire, 2 morts et près de 70 blessés. Cet attentat présumé intervient dans un contexte très particulier en Allemagne. C'est ce qu'explique Paul Maurice, joint par Nicolas Roca. Il est spécialiste de l'Allemagne à l'Institut français des relations internationales.
C'est un contexte préélectoral, élection dans laquelle l'extrême droite, l'AFD est plutôt bien placée, en tout cas a actuellement dans les sondages des scores importants à 2 chiffres, entre 16 et 19% selon les sondages. Donc cet attentat s'inscrit dans un contexte où l'extrême droite, qui a surfé sur la vague migratoire de 2015, sur un phénomène qui a occupé l'Allemagne une dizaine d'années, et cette extrême droite est née, si j'ose dire, politiquement de l'opposition à l'accueil des réfugiés, notamment syriens, en Allemagne en 2015. Et cet attentat intervient un jour assez important pour l'extrême droite, puisque Elon Musk, le patron de SpaceX, de Twitter, a déclaré aujourd'hui que seule l'AFD, seule l'extrême droite, pouvait sauver l'Allemagne. Cette déclaration, associée à un attentat, qu'il soit terroriste ou non, risque de pousser encore plus l'extrême droite et en tout cas de renforcer l'idée pour ceux qui envisageaient de voter pour ce parti que ce parti est une solution pour l'Allemagne.
Le parti allemand d'extrême droite AFD qui pourrait donc surfer sur le climat de peur en Allemagne et cette nouvelle attaque. Les élections législatives anticipées se tiendront le 23 février. Les États-Unis vont-ils échapper au shutdown, cette paralysie des services fédéraux, si aucun accord budgétaire n'est trouvé? Eh bien, la Chambre des représentants vient d'adopter un texte. Il doit maintenant passer le vote du Sénat, puis être ratifié par Joe Biden. Et tout cela avant minuit, heure locale, c'est-à-dire dans un peu moins de 3 heures. Cette bonne nouvelle, toujours aux États-Unis, pour 55 000 fonctionnaires, les prêts étudiants qu'ils ont contractés, souvent très élevés du fait du prix des études dans le pays, ces dettes vont être annulées, annonce de Joe Biden. Ça revient à effacer plus de 4 milliards de dollars de dettes sur le dernier mois de son mandat. Cette décision s'inscrit dans un plan ambitieux du président démocrate. Il devait permettre l'effacement des dettes étudiantes de 38 millions d'Américains. Mais finalement, Nicolas Rocca, ce sera beaucoup moins.
5 millions d'Américains auront vu leurs prêts annulés durant la présidence Biden, bien loin des 38 millions annoncés en 2022 lors de la mise en place du programme. Mais un an plus tard, les ambitions du camp démocrate se sont heurtées à la Cour suprême. Les juges, majoritairement conservateurs, ont estimé qu'étant donné les sommes en jeu, le président outrepassait ses pouvoirs. En 4 ans, 180 milliards de dollars tout de même ont été dépensés pour alléger des prêts étudiants, souvent très élevés aux États-Unis. Malgré la décision de la Cour suprême, l'administration Biden a poursuivi ses annulation de dette grâce à des programmes destinés aux fonctionnaires. Dans son communiqué ce vendredi, la Maison-Blanche souligne l'importance de cette annulation pour les enseignants, infirmières, militaires et les autres employés du service public. En même temps que ces nouvelles annulations de dette, l'administration démocrate a annoncé mettre fin à son programme. Une manœuvre pour rendre la tâche plus difficile à Donald Trump. S'il veut revenir en arrière, il devra créer de nouvelles réglementations, ce qui pourrait prendre des mois, voire des années.
Nicolas Rocca, est-ce la fin du « je t'aime moi non plus » entre la Suisse et l'Union européenne? Berne et Bruxelles ont conclu toute une série d'accords pour régler leurs relations, des relations extrêmement proches. L'UE est le premier partenaire économique de la Suisse, mais des relations extrêmement complexes aussi, régies par plus d'une centaine de textes sur tous les domaines. Énergie, travail, santé, libre circulation des personnes. Ursula von der Leyen parle d'un accord historique. Encore faut-il qu'il soit appliqué. RFI Genève, Jérémy Lanche.
Il aura fallu presque 3 ans et près de 200 réunions entre des hauts fonctionnaires suisses et européens pour trouver un terrain d'entente. Concrètement, il ne s'agit plus de conclure un accord unique, mais d'actualiser ceux existants pour permettre à la Suisse d'accéder à moindre frais au marché commun, sans avoir à prendre sa carte de membre de l'UE. Pour Bruxelles, l'idée est de mettre un cadre institutionnel à tout cela pour éviter de créer une Europe à la carte. La Suisse va par exemple devoir passer à la caisse et augmenter sa contribution au fonds de cohésion européen. En échange, Berne se garde des possibilités de contrôle sur l'immigration. Dès janvier, la Suisse va pouvoir réintégrer le programme de recherche européen Horizon, dont elle avait été exclue. Accord historique donc, mais accord théorique aussi, puisque le Parlement doit encore le valider, ce ne sera pas avant 2026, et le peuple doit le voter pas avant 2028 a priori. Jérémy Lanche, Genève, RFI.
C'est un procès dont l'écho a été mondial. Ce jeudi, tous les accusés du procès des viols de Mazan ont été reconnus coupables et condamnés. Dominique Pellicot a écopé de la peine maximale, 20 ans de prison pour avoir drogué, violé et fait violer sa femme par d'autres hommes. Ces 50 co-accusés ont écopé de peines allant de 3 à 15 ans de prison. Une manifestation avait lieu devant le tribunal d'Avignon ce vendredi, où des militantes féministes espagnoles ont fait entendre leur voix. RFI reportage, Baptiste Coulon.
Elles ont pris la route depuis Barcelone à 5h du matin, mais point de fatigue pour ces militantes espagnoles. Si l'une est touchée, nous sommes toutes touchées, répète-t-elle en chœur. Parmi elles, Maribel, membre du CCOO, un syndicat catalan qui organise la manifestation.
Il n'y a pas de frontière contre le patriarcat, il n'y a pas de frontière entre nous, les femmes, pour nous aider et pour crier chaque jour qu'on a le droit à vivre en paix et sans violence.
Le portrait de Gisèle Pellicot s'affiche sur les pancartes, les banderoles. Son combat doit créer un avant et un après Mazan, explique Menchou, une autre militante. Et les mouvements féministes comptent bien prendre leur part, dit-elle.
C'est important que nous soyons là pour soutenir le mouvement féministe français. On souhaite l'aider dans son combat pour une législation qui tienne compte du consentement de la victime. Cette législation pourrait très bien être mise en place ici. Alors on est là pour l'exiger de force de la part du gouvernement français.
En Espagne, cette législation sur le consentement a été l'avancée majeure après un autre procès pour viol, celui de la Manada en 2018. La France doit rattraper son retard, estiment encore ses militantes. Baptiste Coulon, Avignon, RFI.
Et puis quelques résultats de football avant de refermer votre journal. En Bundesliga, le Bayern conforte un peu plus sa place de leader. Victoire 5-1 sur Leipzig. Victoire aussi en Italie, mais houleuse pour l'AC Milan. 1-0 contre le presque relégable Vérone. RFI, il est presque 3h10 à Paris, 2h10 en temps universel.